France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
SOS Détresse Amitié, bonsoir. Désolé, hein, je suis un peu de la génération du Père Noël est une ordure et sur le coup, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai vu cette info passer presque inaperçue sur SOS Amitié. Après, ça n'est plus drôle du tout. L'association reconnue d'utilité publique pour la prévention du suicide manque tant de bénévoles qu'elle ne peut se répondre qu'à un appel sur 5. D'une manière générale, depuis la pandémie, le bénévolat a perdu 2 millions de personnes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des lignes sonnent dans le vide. Ça veut dire que des associations ne peuvent plus fonctionner comme elles le faisaient. Ça veut dire qu'elles sont réduites parfois à la portion congrue. Après le Covid, les bénévoles ne sont pas revenus, en tout cas pas tous. Et ce qu'on observe, ça n'est pas que la générosité a baissé. Ça n'est pas que vous n'êtes plus solidaires les uns des autres. Ce qui change, c'est qu'on fait plus facilement du bénévolat direct et ponctuel. Alors oui, on donne du temps pour accueillir des réfugiés d'Afghanistan ou d'Ukraine. Oui, on va distribuer quelques repas au Resto du Cœur. Mais l'engagement associatif sur la longueur, celui qui nécessite du temps pour aller en réunion, pour se former, pour donner des heures, ça, c'est de plus en plus dur et c'est ça qu'on va essayer d'interroger ce soir. L'engagement peut-être a changé. Comment ramener les gens vers le bénévolat, renouveler peut-être les générations, repenser le bénévolat pour que toutes ces associations qui nous permettent les loisirs, qui occupent nos enfants, qui nous aident à vivre parfois, qui nourrissent certains d'entre nous, qui pallient si souvent les absences de l'État, pour que ces associations, bien sûr, survivent. Ce serait tellement triste et tellement grave si tout cela disparaissait faute de bénévoles. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Philippe. Vous êtes à Nantes. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne. Je suis de la même génération que vous, donc on est d'accord. je vais essayer de faire tout court parce que si je pouvais vous dire plein de choses. Le bénévole, c'est un amateur. Donc, il aime. Amateur, étymologiquement, c'est celui qui aime. Donc, il s'engage parce qu'il répond à une cause, etc. Donc, il se dissocie fondamentalement du professionnel qui, lui, quand il s'engage, c'est pour gagner sa croûte, etc. Et or, il y a une tendance quand même dans l'engagement bénévole de plus en plus actuellement, c'est que en fait, on demande aux bénévoles d'amener des compétences dans leur engagement. Et donc, autrement dit, quand les bénévoles s'engagent, ils ont un peu l'impression d'être toujours au boulot. Et donc, de pas être forcément compétents sur les missions, parce qu'ils vont avoir des missions très précises sur ce qu'ils vont avoir à faire. Et ça, je pense que ça peut être un frein à l'engagement bénévole actuellement. J'en veux pour preuve, par exemple, les bénévoles de l'aide alimentaire, par exemple, où il existe, par exemple, sur Nantes notamment, mais pas que sur Nantes, une véritable division du travail, c'est-à-dire entre celui qui traite la réception des commandes, des marchandises, ceux qui font les colis et ceux qui les distribuent à ceux qui vont avoir réellement besoin de ces aides. On a là trois étages et qui fait que ceux qui réceptionnent les commandes ne verront jamais les personnes à qui cette aide ô combien précieuse va avoir, etc. Et enfin, dernière chose, c'est le moteur réel de l'engagement, c'est-à-dire qu'on conçoit souvent l'engagement bénévole d'une manière individuelle et je pense qu'il faut la replacer dans des collectifs, c'est-à-dire que j'ai des étudiants, par exemple, qui font des études sur l'engagement bénévole et on voit, par exemple, que les valeurs qui sont portées par les structures qui demandent des bénévoles sont loin, par exemple, des valeurs pour lesquelles les personnes s'engagent bénévolement.
Voilà. Merci beaucoup.
Je suis désolé.
Non, vous avez été très clair et surtout fort intéressant pour ce démarrage d'émission. Merci beaucoup, Philippe, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Linda Perdriau est là, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes membre de SOS Amitié et Hubert Pénicaud est là également. Bonsoir, monsieur Pénicaud. Vous êtes référent national pour la vie associative de France Bénévolat. Je trouve ça extrêmement intéressant ce que nous dit Philippe. Alors surtout sur le début de sa remarque et qui dit en fait que on demande des compétences, c'est lourd et les gens ont l'impression d'être encore au boulot. Je trouve ça très intéressant ce qu'il nous dit là.
Oui, c'est très intéressant et puis.
Et c'est vrai.
Oui, c'est vrai. On voit bien qu'il y a.
Il y a Lina qui dit non, mais vous allez
de l'expérience dans le propos de Philippe. Alors après, c'est vrai. Mais il faut bien voir que ça cache une très grande diversité. C'est-à-dire que c'est compliqué de parler de l'engagement bénévole d'une façon unique, absolue. Voilà. Derrière ce propos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité.
Peut-être que ça veut dire qu'on se jette sur les profils comme Philippe, en fait, quand on est une association, en se disant « Ouh là là, alors je caricature un peu, mais attends, tu es chef d'entreprise, comptable ou un truc comme ça, tu vas vraiment pouvoir nous servir dans ta compétence. » C'est pas forcément ce que venait chercher le gars qui est venu pour faire du volontariat, en fait.
Voilà. Donc voilà, il y a effectivement, il y a une question de profil, il y a effectivement un monde qui est de plus en plus complexe dans lequel on vit et qui fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont elles-mêmes de plus en plus complexes. Après, ce qui fait beaucoup la différence, et c'est là qu'est l'enjeu de l'engagement bénévole, c'est que c'est la question du sens, c'est la question du projet. Il l'a très bien à dire, c'est la question du collectif.
Mais c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on perd un peu de collectif? Vous avez l'impression qu'on est à une époque qui perd du collectif ou pas?
Écoutez, dans beaucoup d'associations, sur ces 15-20 dernières années, il y a eu un travail très important, assez remarquable dans beaucoup d'entre elles, sur justement la façon de se réapproprier son projet associatif, d'aller réinventer, de revenir à la source et de se dire, tiens, effectivement, quel sens notre action a dans le monde d'aujourd'hui par rapport aux gens avec lesquels on est en lien. Et donc, beaucoup d'associations ont fait ce travail qui est assez exigeant, mais qui, du coup, redonne du sens et fait que, du coup, la question de la compétence, on la remet dans une certaine perspective.
Et ça change les profils, en fait, j'imagine, parce qu'on y viendra au profil des gens qui sont bénévoles dans les associations, mais peut-être que ce penser comme ça désormais, ça change les profils des volontaires, j'imagine.
Alors ça peut changer les profils. Aujourd'hui, beaucoup d'associations, dans ce contexte-là, essaient de se dire comment on arrive à diversifier nos missions pour pouvoir justement diversifier les profils vers lesquels on va aller. Donc là, il y a aussi un mouvement assez important. En fait, en se disant, il faut qu'on s'adresse aux citoyens. Il ne faut pas qu'on s'adresse aux bénévoles. Qui sommeille en lui, faut qu'on s'adresse aux citoyens.
Je vous voyais faire non avec la tête, Linda Perdriau, quand on parlait notamment
de compétences.
Voilà. Et en même temps, à SOS Amitié, par exemple, en fait, si, il y a quand même de la compétence, parce qu'il faut apprendre des choses. C'est un travail d'apprendre. Enfin, tout le monde n'est pas écoutant en claquant des doigts, hein, ça
bien
s'improvise
sûr que
pas.
Non. Mais alors là, vous tombez bien, parce que justement, moi, j'ai été mère au foyer. Et donc, je n'avais aucune compétence comme ça. Et j'ai appris parce qu'on a une formation très solide. Comme vous me disiez, faut quand même prendre le temps de cette formation parce que on ne devient pas écoutant comme ça. Il y a une certaine exigence, mais avant tout, c'est une personnalité qui va venir chez nous, un profil avec beaucoup d'humanité, d'empathie, de curiosité, d'ouverture vers l'autre.
Mais je lisais en préparant cette émission, Linda, par exemple, que pour une association comme SOS Amitié, une candidature pour un recrutement pour 10 candidatures. Enfin, on est exigeant et c'est bien normal d'ailleurs dans un domaine comme celui-là. Mais on est extrêmement exigeant en effet.
Tout à fait. Par contre, les profils dans la vie de tous les jours, vraiment, les personnes arrivent de tous univers, vraiment. Donc, on ne choisit pas un tel parce qu'il a fait, il est médecin ou il est PDG ou etc.
Ça veut dire par exemple que dans une association comme SOS Amitié, il n'y a pas forcément de psychologues, de gens qui ont l'habitude de discuter avec des gens en difficulté.
On en avait même un peu peur.
En vous écoutant, j'ai eu le sentiment que c'est même au contraire.
Oui, tout à fait.
Vous, ça fait combien de temps par exemple que vous êtes,
ça fait 12 ans.
Ça fait 12 ans. Est-ce que vous avez vu ce pic confinement? Parce qu'il paraît qu'effectivement, au moment du confinement, il y a eu plein de volontaires. Parce que tout le monde allait mal, effectivement. Donc, on a bien senti qu'on avait tous besoin de ça, cette solidarité. Et puis, pof, retomber quand les maisons se sont rouvertes, en fait.
Oui, tout à fait. On le voit actuellement. On est arrivé à des niveaux bien inférieurs de l'avant-Covid. Moitié moins de candidatures. Donc, effectivement, et des gens qui s'en vont parce que la vie fait qu'on ne peut pas toujours rester à SOS Amitié. Donc, c'est triste pour nous, on le voit, puisque c'est un relais. Chez nous, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Donc, on se relaie et on ne peut plus se relayer, se donner la main. Donc, appartenir à l'association, avoir cette sensation de partager avec tout le monde quelque chose d'important. Parce que ça, cette identité, c'est vraiment fondamental fondamental pour nous.
En effet, ça fait des appels qui sonnent dans le vide, Hubert Pénicaud, et quand on est à SOS Amitié, la pire chose qui peut se produire, c'est que les appels sonnent dans le vide, en fait.
C'est ça.
Ouais. C'est clair. Non, mais on voit bien que cette pandémie et puis ce moment qu'on a vécu révèle aussi un petit peu ce qu'est les dynamiques d'engagement. Et on a un petit paradoxe sur lequel beaucoup d'associations essayent d'avancer, c'est que il y a à la fois une très grande envie d'agir, qui exprime les citoyens dans la société, hein, qui se traduit par le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent frapper à la porte des associations et on essaye de leur trouver la meilleure place, qui se traduit aussi par le fait que actuellement il y a beaucoup de créations d'associations, hein, sur ces 10 dernières années il n'y en a jamais eu autant de créations d'associations, c'est des citoyens qui expriment cette envie d'agir et qui parfois la traduisent dans la création d'une association. Donc à la fois on a beaucoup d'envie d'agir, hein, et puis il y a aussi une certaine difficulté à passer à l'action, parce qu'il y a une exigence qui est à la fois du côté des associations, et puis l'engagement, ça porte des exigences.
Est-ce que souvent on ne se rend pas compte en fait que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures? Il y a Linda qui fait oui avec la tête, on se lance mais on ne sait pas exactement dans quoi on se lance en fait, c'est ça que ça veut dire?
Oui, il y a cette idée qu'on y met le doigt et puis le bras y passe. C'est aussi notre capacité dans les associations à renforcer, je prolonge le propos de Philippe, hein, sur le collectif, c'est-à-dire que l'enjeu c'est qu'on s'engage pas tout seul. Je vous prends un exemple très simple. Il y a des jeunes qui ont 20-25 ans, leur horizon c'est le semestre. C'est le semestre sur lequel ils peuvent arriver à se projeter. Et pourtant certains ont envie de s'engager. Eh bien, dans certaines associations, hein, je pense à la Croix-Rouge, à Famille Rurale, etc., on propose à des jeunes de s'engager et de prendre responsabilité à deux ou à trois. Ce qui fait que ce qu'on peut faire à deux ou à trois, on va pouvoir l'inscrire dans la durée. Voilà. Et donc ça, c'est un peu des nouvelles formes très simples qu'on est en train d'imaginer et qui renforcent ce qui est central, c'est la question du collectif.
Chez vous, Linda Perdriau, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les écoutants, ou est-ce qu'il faut aller chercher? Et je dis ça, je ne dis pas du tout ça méchamment, mais il y a quand on a un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans, 25 ans au téléphone qui va pas bien, parfois quand il entend quelqu'un qui a son âge et qui comprend effectivement la problématique, c'est beaucoup plus facile de lui parler que lorsque c'est vous qui répondez probablement, et l'inverse est vrai aussi. Est-ce qu'il y a ce manque-là? Est-ce qu'au fond tous les profils vous ressemblent? Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Je pense que tout le monde trouve à qui parler, hein. Et quand on a une problématique, un souci, une souffrance, peu importe à qui on parle. Donc effectivement, de temps en temps, on peut nous demander notre âge, hein, parce que si vous aviez 25 ans, vous comprendriez peut-être mieux. Ouais. Et là, on parle de ça.
Mais le peut-être but, que c'est pas vrai, en fait, d'ailleurs. Et on voilà. comprend pas mieux, pas ni plus ni moins.
Voilà. C'est
fonction vraiment de l'âge qui est le nôtre, évidemment. Ben tiens, en parlant d'âge, voici Alice. Bonsoir, Alice.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi j'ai 25 ans et je suis membre des Scouts et Guides de France depuis mes 7 ans. Et voilà, j'ai appris l'engagement avec mes parents et mes grands-parents qui étaient tous très engagés. Et puis dès que j'ai pu, une fois que j'ai eu mon BAFA, j'ai été chef taine chez les Scouts pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis responsable adjointe du groupe des Scouts de ma ville. Et voilà, je voulais témoigner sur le fait que l'engagement, c'est pas forcément évident, je suis d'accord. Et ça peut faire peur, et en même temps moi mon engagement bénévole m'a beaucoup appris sur la gestion de projet, sur apprendre à la prise de parole, sur les rencontres, etc. Et enfin voilà, ça apporte aussi beaucoup, et donc voilà, je voulais encourager à s'engager et poursuivre tout ce qui peut se faire pour valoriser le bénévolat de chacun, parce que c'est vraiment important et ça nous apporte autant que nous on apporte.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Alice, merci vraiment, bravo à vous. Hubert Pénicaud, est-ce que c'est plus facile quand on est comme Alice dans une famille d'engagés, en fait, depuis le début? Donc c'est presque naturel, c'est comme aller au foot, au fond.
Oui, c'est clair que le témoignage d'Alice est intéressant, c'est-à-dire que la question de l'engagement, c'est aussi une question très culturelle.
Ouais.
Et dans les observations qu'on peut faire, hein, je vous donne un chiffre, je ne voulais pas en citer trop, mais si je suis dans un environnement favorable, que j'ai un bac plus 3 dans une famille un peu porteuse, j'ai deux fois plus de chances de faire du bénévolat que si j'ai un niveau bac ou inférieur. C'est-à-dire que on est assez marqué culturellement. Hein. On a une approche en France qui est assez inégalitaire sur le sujet. Et donc, du coup, d'où l'importance de travailler sur la transmission et sur la possibilité, dans la famille ou à l'école ou ailleurs, de pouvoir rencontrer l'engagement.
Là, on dit, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre sujet, que les associations post-Covid ont perdu à peu près 2 millions de bénévoles. Vous dites d'ailleurs, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que vous en aviez perdu encore plus et que vous avez même été presque étonné finalement de ceux qui sont revenus. Pas encore assez, mais il y en avait quand même un certain nombre. Est-ce que ça veut dire que c'est cet épisode du Covid qui a été un révélateur de quelque chose, ou est-ce qu'au fond c'est une lame de fond qui a été accélérée par le Covid? Parce que oui, il fallait de toute façon déjà repenser ces engagements-là, parce que vous étiez en train de perdre du monde de toute façon.
Alors, la difficulté, c'est qu'il y a des réalités très très diverses. Hein. C'est-à-dire que vous avez dans le champ de la culture, les activités dans le champ de la culture ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est de relancer l'ensemble. Il faut aller relancer l'activité, chercher les acteurs, les bénévoles. Vous allez dans le champ de la solidarité. Dans le champ de la solidarité, il y a beaucoup d'associations qui se sont retrouvées avec une activité débordante et qui ont accueilli de nouveaux bénévoles. Oui. Donc, il y a des réalités extrêmement différentes. Ce qui est certain, c'est que comme il y a des activités qui ont été très menacées, hein, et certaines rendues à zéro en termes de vulnérabilité, ben là il faut construire. Hein, voilà. Et donc la situation, elle cache beaucoup d'hétérogénéité.
Mais est-ce que ça veut dire concrètement, là par exemple, on voit bien sur SOS Amitié, ça veut dire un appel sur 5, enfin c'est vraiment terrible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des petits clubs de foot dans des petites structures, des petits clubs de sport, des ciné-clubs, enfin tout ce qui fait aussi le sel d'une vie communautaire, d'une vie en société, d'une vie souvent d'une vie rurale d'ailleurs probablement, où l'accès aux choses est plus difficile. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qu'on est en train de perdre là, en fait, en même temps que les bénévoles?
Voilà, c'est ça qu'on est en train de perdre. C'est intéressant de l'aborder sous la question aussi de l'ancrage du territoire. Ce qu'on a observé avec beaucoup de réseaux associatifs, c'est que là où les associations travaillaient ensemble, faisaient coopérer le mieux, eh bien on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus solides, justement, pour faire en sorte de résister quand il y avait un coup comme celui qu'on a vécu. Et donc, il y a la question du tissu associatif qui est effectivement en jeu, qui fait que parfois, on a 36 000 témoignages de clubs de sport qui étaient à un niveau d'activité zéro et qui, du coup, se sont dit, bah, tiens, on va les mettre au service des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, etc. Et donc, en fait, ce que ça a aussi beaucoup interrogé, c'est la façon dont le tissu associatif, il est enraciné, il est ancré dans les territoires, qu'ils soient ruraux, urbains.
Marie est avec nous. Bonsoir Marie.
Allô?
On vous écoute Marie.
Oui.
Allez-y Marie, on vous entend.
Oui, bonjour.
Bonsoir à vous, allez-y.
Oui, on déplore le manque de bénévoles et il y avait eu un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, je ne sais pas quand, de services civiques qui venaient en renfort aux associations. Et c'était très intéressant. Et dans l'association de mon petit village, on a eu plusieurs années de suite des services civiques. Mais genre jardin partagé, enfin animation du village, bref. On fait énormément d'activités. Et depuis 2 ans, les dossiers sont plus difficiles à remplir. Et cette année, nous avons eu la surprise que les tâches définies pour les services civiques étaient considérées comme un travail, ce qui n'est pas qui ne doit pas être pour les services civiques, ou du bénévolat. Alors là, nous sommes espantés, comme on dit chez moi, parce que...
Espantés, j'adore, moi aussi je dis ça des fois.
J'aime beaucoup espantés. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme troisième voie? Alors, si c'est du travail salarié, c'est ça. Si c'est du bénévolat, c'est ça. Mais oui, si vous pouviez m'indiquer la troisième voie pour qu'on puisse avoir nos charmants services civiques, on serait très content.
Eh ben, écoutez, on va poser la question. Merci beaucoup, Marie. On espère qu'on va calmer le fait que vous êtes espantée. J'adore moi aussi cette expression. Alors, le service civique, Hubert Pénicaud, ça existe toujours.
Bien sûr.
Et des jeunes en service civique pour prêter main forte, dans plein de tissus, ouais. Ça existe, ouais. Y compris dans l'associatif, y compris autour de tous les services de bénévolat.
Bien sûr. Le service civique, en deux mots, hein, c'est il y a 10 ans en France, mais il a commencé à être imaginé il y a 25 ans par des associations. C'est devenu une politique publique et c'est une dynamique passionnante qui atteste ce que je disais tout à l'heure sur l'envie d'agir, hein, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire un service civique et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répondre complètement à cette envie d'agir. Cette politique publique, elle est très enracinée, très portée par les associations, hein, c'est vrai que parfois votre témoignage est intéressant parce qu'il montre comment ces dynamiques d'engagement parfois elles sont prises dans des dispositifs qui sont un petit peu à l'encontre de la dynamique elle-même d'engagement et la capacité d'accueillir et de porter et de proposer des missions et d'accompagner les jeunes dans ces missions.
Il y a beaucoup de volontaires des services civiques, Linda Perdriau, dans SOS Amitié. Vous avez vu passer des jeunes gens comme ça ou pas du tout?
Non.
Je pense que c'est très difficile en fait ce que vous faites vous par rapport à d'autres choses. Non mais sérieusement,
c'est très spécial.
Il faut être très 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 accroché, il faut être sûr d'avoir des il faut pas avoir peur, enfin d'avoir affaire à des gens qui sont dans une vraie détresse.
Tout à fait, et ça c'est un point important sur lequel on réfléchit actuellement et qui fait que certains partent assez vite, hein, c'est le fait de d'être attaché à l'autre, ouais. et de se faire mal en même temps, hein. Donc ça on apprend dans la formation à avoir ce recul, mais c'est pas si facile que ça. Il faut être vraiment très bien déjà soi-même à l'intérieur,
exactement,
hein, pour pouvoir s'occuper de l'autre.
Est-ce que d'ailleurs vous avez vous une longévité exceptionnelle ou est-ce que au fond non, on reste très longtemps ou très peu de temps en fait. Il y a rien au milieu dans une quelque chose comme SOS.
Non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a pas de. J'ai une doyenne chez nous qui a 40 ans d'écoute. Et elle a 92 ans.
C'est intéressant parce que...
C'est magnifique.
Oui, absolument. Et je reviens sur la suite de la question de notre amie du Vaucluse qui était espantée. Ce qu'elle dit aussi, il y a beaucoup de mails notamment dans ce sens-là, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de confusion entre ce qui devrait être un travail, en fait, et qu'on demande aux gens de faire à titre bénévole, comme si, c'est un peu ce que tu disais en introduction, au fond, vous étiez là pour pallier les manques de l'État, pour pallier le fait qu'on n'embauche pas, qu'on ne paye pas, etc., et que, au fond, on vous fait porter un poids et un rôle qui ne devrait pas être le vôtre.
Alors, il y a effectivement cette lecture qu'on peut faire, hein, qui a été très bien faite par les uns et les autres là, depuis le début de l'émission. Et puis, il y a aussi l'autre lecture qui est que les associations, en fait, elles regroupent des citoyens qui sont en contact direct avec ce qu'on appelle la demande sociale, avec les besoins, qui sont en direct avec les gens qui ont une nécessité, que ça soit une nécessité sociale, les gens qui ont envie de s'investir dans la culture. Et donc, du coup, le champ associatif, c'est aussi un champ créateur. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui portées par la puissance publique, qui ont été inventées, imaginées, parce qu'il y a des citoyens, à un moment donné, qui se sont levés pour inventer, imaginer quelque chose.
Il y a ce mail sur franceinter.fr de Chantal qui dit « Il ne faut pas parler de bénévoles, mais de militants. Nous sommes dans des associations pour porter, pour militer et pour les valeurs qu'elles portent. Ouais. » Elle est intéressante, cette distinction entre bénévoles et militants. Vous vous sentez bénévole, Linda Perdriau, ou militante?
Non, bénévole, c'est sûr. Militante, non. Je le fais avec bonheur. Peut-être que certains militent avec bonheur.
Oui, alors j'imagine bien, et j'imagine surtout que personne chez vous n'écoute avec malheur.
Oui, oui. Non, c'est une joie de faire ce bénévolat. Et notre devise d'ailleurs, c'est l'écoute peut sauver une vie et enrichir la vôtre. Il y a vraiment deux parts, la part de l'autre et la part de soi. Donc ça, faut pas oublier.
Hubert Pénicaud, est-ce que c'est pas ça qui change aussi dans les jours que nous traversons aujourd'hui? On voit bien que l'engagement est différent. Ouais. On s'en rend compte quand on parle politique. On parle beaucoup politique, évidemment, en ce moment. On se rend compte que les gens ne votent pas forcément, votent de moins en moins, mais en revanche, s'engagent différemment ailleurs, et ils s'engagent de manière réellement militante, et là, ils le font d'ailleurs très souvent bénévolement. Donc, est-ce qu'il y a cette différenciation aujourd'hui dans la manière d'être un bénévole, et donc un militant, à la raison, notre auditrice?
Ce qui est à noter, hein, sur ces 15 dernières années, une des évolutions intéressantes qui illustre le propos, c'est que De plus en plus, quand on demande à des personnes qui sont engagées bénévolement, je le dis comme ça, quelle est leur motivation première, leur motivation fondamentale, eh bien, de plus en plus, les bénévoles nous disent, c'est l'expression de la citoyenneté. Mmh. Donc, il y a pas forcément sur le terrain du militantisme, dont on voit qu'il peut être porteur d'un projet, peut-être même politique. Ouais. Hein, mais en tout cas, il y a l'idée que mon engagement, c'est l'expression de ma citoyenneté, et c'est ça qui me fait appartenir, participer à du commun.
Il y a une suite dans la remarque de Chantal qui dit « Pourquoi ne pas accorder un salaire, un temps militant pour une association comme on le fait pour un syndicat, par exemple ?» Est-ce que ce serait intéressant ou est-ce que ce serait casser l'idée en fait de ce que doit être l'associatif et le bénévolat ?
Beaucoup d'associations pensent que c'est une fausse bonne idée.
Ouais.
Et d'ailleurs, les bénévoles, quand on les interroge, rapidement, ils nous disent que c'est une fausse bonne idée, que ça dénaturerait l'idée même de leur engagement. Pour autant, il y a une forte attente de reconnaissance. Et de plus en plus, les bénévoles, ils expriment l'idée que il y ait cette reconnaissance qui soit un peu formalisée. Alors, pas forcément dans une contrepartie directe, mais par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, la reconnaissance des compétences.
Mmh.
Et donc, en fait, c'est l'idée, je vais donner plein de choses, et puis je vais recevoir quelque chose, mais je sais pas trop ce que je vais recevoir. Je vais recevoir peut-être des compétences, de la prise de responsabilité, des nouvelles amitiés, etc., etc.
Il y a même un monsieur qui nous demande, et je trouve que la question est légitime, est-ce qu'on pourrait cotiser pour la retraite en faisant une activité bénévole?
Oui,
en fait,
oui.
Et par les temps qui courent, c'est une question intéressante.
Oui, oui, certains l'imaginent. Alors après, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans ce genre d'histoire, ça veut dire qu'il va falloir compter son temps, il va falloir c'est-à-dire que l'engagement bénévole, c'est aussi une façon de donner sans compter. Enfin, c'est aussi un espace de liberté. Hein. Et l'idée, en fait, ça rejoint l'idée d'avoir un statut du bénévolat. On imagine bien que donner un statut au bénévolat, c'est tordre le bénévolat.
Marie-André est avec nous. Bonsoir, Marie-André.
Oui, bonsoir, merci pour votre émission et merci d'avoir pris ma question. Alors, moi, je veux m'engager parce que je vais être retraitée en avril 2023 et donc je souhaite m'engager dans une association qui œuvre contre la maltraitance infantile et j'aimerais donc savoir comment je peux utiliser mon compte personnel de formation que je dois utiliser avant mon départ en retraite pour acquérir des compétences qui me seraient utiles dans ce prochain bénévolat. Et je poursuis en disant par rapport aux derniers propos qui viennent d'être tenus, que effectivement, moi, c'est vraiment un bénévolat. La vie m'a gâtée et j'aimerais rendre à ceux peut-être pour lesquels la vie a été plus difficile quelque chose de... Voilà, j'aimerais rendre à la société ce qu'elle m'a donné par ce bénévolat.
Merci pour votre remarque et pour votre question. Marie-André, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'elle peut utiliser avant sa retraite, qui est très proche, son compte personnel de formation?
Alors, je ne vais pas pouvoir répondre au millimètre près à cette question-là. Ce que je peux juste dire, c'est que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la compétence, hein, l'engagement bénévole. Pas pour tous les engagements, mais pour une grande part, ça mobilise des compétences et qu'effectivement, il faut pouvoir aller les renforcer. Et dans ce sens, il y a un nouveau dispositif public intéressant qui est lié au compte personnel de formation qui fait qu'il y a maintenant un compte d'engagement citoyen. Et donc, des bénévoles, suivant certaines conditions, eh bien, peuvent bénéficier par la puissance publique d'un crédit, d'un droit à la formation qui leur est donné en contrepartie de leur engagement bénévole. Donc là, il y a une vraie reconnaissance. Ça ne répond pas totalement à la
question. Non, mais est-ce que vous dites là, est-ce qu'on peut l'utiliser pendant ces années d'activité ou est-ce qu'il faut attendre d'être à la retraite, par exemple, comme Marie-André, pour utiliser ce temps-là ou ces heures-là?
Non, on peut l'utiliser, ça vient abonder son fameux CPF, directement.
Voilà, j'ai appris quelque chose grâce à vous, merci beaucoup, formidable. Linda Perdrieu, vous saviez, vous, exactement que c'est là que vous vouliez être? Vous vouliez...
Alors, pas du tout.
Alors, voilà. J'allais me demander comment ça vient, comment à un moment, vous vous dites je veux m'engager, d'accord, et vous cherchez quelle est la meilleure voie pour
vous.
Oui,
je suis passée par France Bénévolat, sur la plateforme, et je m'étais destinée aux Blues Roses, il n'y avait pas de place à l'époque.
C'était quoi les Blues Roses?
C'est les intervenants auprès des enfants malades.
D'accord, ok.
Voilà, parce que j'ai pas mal vécu dans les hôpitaux.
Mm-hmm.
Et donc du coup, après, je suis tombée par hasard sur SOS Amitié, parler, je déteste le téléphone, c'est bizarre, mais parler, voilà. Et je crois que ça a fait sens suite aux entretiens.
Mmh. Et ça a été le premier coup et réussite en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas tâtonné en fait.
Non, du tout. Ouais.
On tâtonne quand on cherche souvent,
oui,
ou pas
oui. Est-ce
que c'est une bonne nouvelle en fait, ou est-ce qu'il vaut mieux arriver en disant, vous voyez, je pense à notre auditrice à l'instant qui dit, je sais ce que je veux faire et je sais que j'ai besoin d'ailleurs d'être formée pour ça.
C'est parfois une difficulté pour les associations, c'est des personnes qui effectivement vont essayer, vont chercher, vont faire 3 mois ici, 6 mois là, et puis à un moment donné vont choisir ou pas. Enfin, vont choisir dans le meilleur des cas. Donc effectivement, ça c'est une tendance un petit peu nouvelle. C'est aussi une des missions de France Bénévolat. Hein. Mm-hmm. On est implanté partout en France et on peut prendre le temps de discuter avec des gens qui ont envie et puis de les mettre en relation, de les aider à prendre un petit peu de recul sur leur envie et de la formaliser.
Écoutez ce que nous dit Karine sur franceinter.fr. Il me semble que chez nos pays voisins, dès le plus jeune âge, les élèves finissent plus tôt pour se consacrer à du sport, de la culture, etc. via les associations qui gèrent ces activités, des activités structurantes et naturellement présentes dans le paysage des citoyens. Et c'est un exemple inspirant. Quand on disait tout à l'heure en début d'émission qu'il fallait peut-être repenser aussi la manière dont tout cela est amené, l'associatif et le bénévolat, c'est vrai ce qu'elle dit. En fait, nous avons une structure dans nos emplois du temps et dans nos vies qui ne favorise peut-être pas forcément le bénévolat. Qu'est-ce que vous en pensez,
Hugo? Oui, et sur la question du lien avec l'école en particulier. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup d'associations à regretter de ne pas pouvoir avoir des partenariats très forts entre associations et avec les collèges, les lycées. C'est à cet âge-là que les choses se jouent. Hein. Et il y a beaucoup d'intentions qui ont été portées par les uns et par les autres, parfois par des ministres, mais aujourd'hui on n'est pas au rendez-vous sur le sujet. Mmh. Oui, clairement on n'est pas au rendez-vous.
Donc ça veut dire qu'il faut repenser ça.
En fait. Certainement.
Et est-ce que l'argument des chiffres qui tombent, c'est un vrai argument? Ça vous permet d'avoir des choses dans votre besace pour aller rencontrer un ministre éventuel, vous?
Alors, nous, on pense effectivement que c'est un vrai argument et on le pousse un peu plus loin en disant, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que renforcer la question de l'engagement bénévole, pour la société, c'est renforcer la citoyenneté. Hein. C'est renforcer la question de l'appartenance à du collectif, à la capacité que l'on a à rencontrer l'intérêt général et quelque part à s'intéresser à la chose publique. Hein. Mmh. Donc oui, notre plaidoyer, il porte cette dimension. On n'est pas dans un plaidoyer pour sauver notre ressource associative. On est dans un plaidoyer qui porte cette question de l'intérêt général et du renforcement de la citoyenneté.
Avec l'actualité qui est la nôtre en ce moment, on parlait tout à l'heure d'engagements qui sont plus ponctuels. Je pense par exemple à l'aide ponctuelle aux réfugiés afghans, aux réfugiés ukrainiens, etc. On a vu beaucoup de spontanéité dans ces mouvements-là et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que, effectivement, plus ça va, plus c'est vraiment œuvre individuelle mais sans passer par la case associative en fait? Et est-ce qu'il faut donc, du coup, pousser les gens en leur disant passez par la case associative avec vos envies et vos projets, y compris sur des choses comme ça, accueillir des migrants, les aider, de faire du soutien scolaire, etc.
L'idée, c'est de pas opposer les choses. Mmh. L'idée, c'est certainement aussi dans une société qui est de plus en plus complexe. Hein, les parcours de vie sont aussi de plus en plus complexes. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Hein, tous les âges de la vie. Et donc, il nous faut certainement diversifier les logiques et des expériences bien ficelées d'engagement ponctuel. Ça peut être les prémices, la base d'un engagement plus pérenne au moment où la personne sera mieux en disponibilité. Et sera prête pour s'engager plus profondément.
François est avec nous. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute François.
Écoutez, moi, c'est simplement vous donner une autre version. En fait, c'est pour au milieu rural où j'habite, donc les petites associations ont beaucoup de mal à recruter effectivement et des bénévoles, mais il faut aussi penser que ce sont des bénévoles qui administrent ces associations. Ouais. Et c'est souvent à ce niveau-là que c'est compliqué. Donc moi, j'ai une expérience de président d'une petite association, et c'est vrai que c'est chronophage, on y passe beaucoup de temps. Moi, j'étais en activité, ça m'a causé des problèmes aussi. aussi avec mon employeur, parce que bon, je devais quelquefois, comme ça, au pied levé, me rendre disponible pour ci, pour ça, et c'est pas toujours simple. Et je pense que les collectivités locales, donc les responsables, devraient effectivement prendre en compte tous ces aspects et reconnaître le travail bénévole qui est fait sur les territoires, parce que sur les territoires, c'est le lien social, c'est tout est en jeu à ce niveau-là, et je crois que quelquefois, malheureusement, les politiques en place n'ont pas conscience de ça. Et c'est aussi peut-être valoriser. Alors effectivement, moi je crois que il y a des expériences qui sont faites dans les grosses, pour les grosses entreprises et les grosses collectivités. Ils peuvent détacher des salariés pour participer à des conseils d'administration et autres d'associations. Mais quand on est dans un milieu rural, dans des petites entreprises, ça n'est pas le cas. Donc participer à la vie d'une association, bon, en tant que bénévole, c'est une chose, mais l'administrer, c'est une autre chose. Et là, c'est compliqué. Et une simple reconnaissance, moi je prends mon cas personnel, j'ai été pendant 10 ans donc président d'une association. Bon, peut-être que effectivement ça aurait pu être reconnu simplement sur le temps que je passe par rapport effectivement à des droits à la retraite, des petites choses comme ça. Je pense que les préfectures peuvent être à même d'analyser en termes d'administration, surtout le conseil d'administration qui est lourd. La difficulté qu'on avait, c'est renouveler le conseil, on n'arrivait pas. C'était toujours des gens âgés, on n'arrivait pas à mettre des jeunes, on n'arrivait pas à... parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Il faut aussi un peu démythifier cet aspect et permettre et faciliter ces prises de responsabilité. Sinon, les associations, même s'il y a des bénévoles, elles ont du mal à tourner.
Merci beaucoup, François, pour cette remarque, Hubert Pénicaud.
Là, on touche du doigt certainement la plus grande difficulté aujourd'hui de l'engagement. C'est l'engagement des dirigeants, vous l'avez très bien exprimé avec votre témoignage. C'est une vraie difficulté. On est dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Et effectivement, il y a une responsabilité, une charge qui pèse de plus en plus sur les dirigeants. Parfois inutilement, c'est-à-dire que on les détourne de ce qui est l'enjeu.
Et pas beaucoup de renouvellement visiblement de ces dirigeants à l'intérieur des structures.
Oui, alors ça amène une difficulté de renouvellement. Il est clair que les 2 ans de crise, de confinement, etc., ont mis beaucoup d'associations en grande difficulté parce que elles n'ont pas pu renouveler leur vie associative et renouveler les membres. Et donc certaines aujourd'hui sont en péril pour cette raison-là, parce qu'elles ne peuvent pas renouveler leurs dirigeants et donc elles perdent leur existence.
Et pourtant, voici Louise qui est en Bretagne. Ce sera la dernière. Louise qui dit, pour ma part, je me suis lancée dans le bénévolat pendant le confinement, mais je me suis rendu compte quand même que certaines associations sont assez verrouillées parce que les gens sont là depuis très longtemps et ça peut être plus ou moins bien accueilli. Certains donc ne reviennent pas après parce que c'est compliqué d'y rentrer. Ouvrez-vous, amis des associations. C'est ça que ça dit. Ne soyez pas dans votre petit cercle de gens qui vous connaissez depuis des années, en fait.
Oui, elle a raison. C'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes impliqué dans une équipe, vous avez une mission qui est passionnante, et puis vous êtes dans un réseau d'amitié, puis tout d'un coup il y a 2-3 personnes qui arrivent et puis qui commencent à poser des questions, qui commencent à avoir des idées, et donc on a certainement à renforcer notre capacité d'accueil.
Voilà, Linda Perdriau, moi je suis sûre que vous accueillez très très bien les gens qui arrivent. Vous les formez ou pas désormais?
Oui.
Maintenant que vous avez 12 ans d'expérience.
Oui. Au bout de 3 ans, j'étais formatrice à la transmission. Voilà, c'est quelque chose d'important pour nous. Et on reste dans l'association quand on s'investit dans l'association. C'est ça qui nous relie.
Et on a bien compris que vous aviez besoin de monde, les uns les autres, que ça nécessite du temps et de l'engagement, mais que ça vaut le coup. Et merci vraiment. Et de l'envie. Merci vraiment. Merci tous les deux. Merci à tous pour vos très nombreux appels.